Radio Show, l'interview.
Vous écoutez Radio 1, il est 8h23. Alors, ce matin, je reçois Sylvère Lamy, formateur ingénieur en agronomie tropicale pour la formation proposée par Doceo. Je fais mon potager bio. Bonjour Sylvère.
Bonjour Inatea.
Alors, je voulais déjà introduire le bio. Qu'est-ce que c'est concrètement ?
Là, on parle souvent de bio, on parle de naturel.
Est-ce qu'on peut l'assimiler
de dénomination. Le bio, c'est quelque chose de très... De très clair, de déposé. D'ailleurs, on parle de labellisation bio. Et effectivement, souvent, sur les étiquettes, au marché, on voit le mot bio, alors que ce n'est pas forcément quelque chose de respectueux des règles. Il faut savoir que la certification bio, c'est quelque chose de très strict. Il y a d'ailleurs sur Tahiti, en Polynésie, un certificateur bio. Le ministère de l'Agriculture, le SDR, cherche aussi à mettre en place d'autres formes de certification, puisque au travers le monde, il y a plusieurs, on va dire un petit peu plusieurs écoles. Mais à ce jour, à ma connaissance, en Polynésie, il n'y a que... J'ai peut-être un petit peu de retard dans l'actualité, mais à ma connaissance, il n'y a que 3 exploitations agricoles certifiées bio.
C'est pas beaucoup.
Ça progresse. Hein, on est parti de zéro il n'y a pas très longtemps. Une chose est importante à savoir, c'est que pour au-delà des contraintes, évidemment, on parlera peut-être tout à l'heure de pesticides, de sol, d'engrais chimiques, etc., de choses qui sont à proscrire.
La
certification bio demande du temps. Il y a ce qu'on appelle un temps de conversion qui fait que même quelqu'un qui voudrait être bio, qui pratiquerait l'agriculture biologique depuis longtemps, le contrôle doit laisser un temps d'une année et demie entre le premier contrôle et la certification, qui est ce temps de latence qui est censé effectivement purifier les sols, assainir. D'accord. Et quelqu'un qui serait pourtant d'une logique bio, à partir du moment où il fait sa démarche de certification, il lui faudra une année et demie avant de pouvoir être certifié.
Faut être patient,
tout à fait. Donc actuellement, pour revenir à ce qu'on disait, il y a effectivement, à ma connaissance, 3 exploitations certifiées bio, mais il y a un nombre beaucoup plus important d'exploitations qui sont en cours de certification, donc qui sont dans cette période de latence, cette période de conversion, avant de pouvoir commercialiser sous le label agriculture biologique.
Donc en Polynésie, c'est pas vraiment encore développé le bio.
Alors il y a une prise de conscience très importante. Moi, je fais effectivement de la formation aussi bien pour les particuliers que pour les agriculteurs.
C'est venu de quoi, cette prise de conscience ?
Je pense, évidemment, notamment le rôle des médias, la prise en compte à la fois médias locaux, mais de prise en compte internationale de préoccupations d'alimentation, de nutrition, que ce soit chez le consommateur et chez les agriculteurs. Heureusement, il y a de plus en plus une prise de conscience qu'on ne peut plus continuer à produire comme ça et évidemment à manger comme... On a pu le faire, des produits dont l'origine, la provenance était parfois curieuse, suspecte, avec des doses de pesticides ou d'engrais chimiques qui dépassaient les normes.
Finalement, pourquoi manger bio plutôt que...
Évidemment, bien sûr, pour une notion d'alimentation, on sait que les pesticides sont à l'origine d'un certain nombre de maladies graves, un certain nombre de cancers. Au-delà de l'aspect alimentation, il y a, je pense, une notion un petit peu de respect, d'équilibre vis-à-vis de la nature. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais une notion d'écosystème, c'est pas forcément une serre aseptisée avec plein de produits chimiques autour. Une agriculture qui respecte la nature, c'est aussi autour du faapu, c'est laisser des arbres, laisser une faune, une flore, des insectes, le rôle des abeilles. Donc voilà, au-delà de cette dimension, le bienfait de l'alimentation ou éviter les conséquences nuisibles, c'est aussi une philosophie, mais vivre en cohérence aussi avec son environnement qui va au-delà de la production agricole, du concombre ou de la salade qu'on va faire pousser ou de filles ou des tomates. C'est aussi se dire que la production se situe aussi dans un environnement naturel équilibré, où on n'a pas bétonné, où on n'a pas traité autour, où on n'a pas un genre d'îlot de production agricole dans un environnement extérieur qui a été aménagé, voire souvent un petit peu massacré.
Finalement, en Polynésie, ça s'explique.
Tout à fait. Donc, vraiment,
par rapport à l'environnement,
que la production agricole soit aussi respectueuse de son environnement et que vice-versa, que l'environnement écologique apporte par la présence d'insectes, par la présence d'auxiliaires, par la présence d'oiseaux, de toute la chaîne écologique, qu'il y ait une cohérence pour rendre utile et rendre sain et en bonne santé les productions agricoles.
Alors, on va aborder plutôt les thèmes techniques. Qu'est-ce qui entre en compte quand on veut jardiner bio ?
Alors, à la fois beaucoup de choses. Alors, souvent, les personnes que l'on forme disent « Oh, Silver, ça paraît
compliqué.
Pas compliqué, mais il y a beaucoup de choses. » Mais c'est toujours, souvent, quelques temps après, on me le dit, mais en fait, ce n'est que du bon sens. Hein. Effectivement, il y a plusieurs choses à prendre en compte, mais ce ne sont vraiment que des logiques de bon sens. Moi, je dirais une première chose, c'est peut-être la chose la plus importante dans l'agriculture biologique, qui change complètement le regard qu'on a sur l'agriculture par rapport à l'agriculture conventionnelle ou chimique. Mm-hmm. Ça dépend ce que... comment on va dire, elle est chimique, c'est-à-dire qu'il va utiliser à la fois des pesticides et des engrais chimiques, c'est que l'agriculture biologique va s'intéresser au sol, et, alors que l'agriculture chimique va s'intéresser à la plante. Schématiquement, quelqu'un qui est dans une démarche d'agriculture chimique, d'agriculture conventionnelle, va attendre que sa plante soit malade, va attendre que sa plante se porte pas bien pour apporter des pesticides, des engrais. L'agriculture biologique, c'est une démarche de prévoyance, une démarche de précaution, une démarche à long terme qui se dit bien sûr je vais soigner ma plante, mais je vais surtout m'intéresser au sol et faire en sorte que en permanence mon sol soit bon, soit sain, soit en bonne santé, respire bien, absorbe bien, on le voit en ce moment depuis 2 mois qu'on a beaucoup d'eau, absorbe bien la pluie, garde toute sa richesse, et un sol sain va forcément favoriser des plantes successivement, c'est ce qu'on appelle la rotation, qui elles seront saines, et plus le sol sera sain, plus la plante se développera bien, sera en bonne santé et sera plus résistante aux maladies. On sait bien qu'une plante qui est fragilisée parce que le sol est trop gorgé d'eau, est trop sec, ne respire pas, va être beaucoup plus porteur-vecteur de maladies.
Donc mieux vaut prévenir que guérir.
Ça
s'articule autour de ça.
Voilà, c'est vraiment un leitmotiv en agriculture biologique. On va travailler dans le temps, pour l'avenir, et on va perpétuellement s'assurer que le sol, là où les plantes, les différentes plantes qu'on choisira avec effectivement intelligence, on en reparlera peut-être tout à l'heure, puissent bien se comporter, puissent trouver un environnement favorable à leur croissance.
Pour un entretien d'un jardin bio, comment ça se déroule ?
Alors, il y a un certain nombre de... Alors, il y a des choses très classiques qui sont tout à fait conventionnelles, qu'on retrouve en agriculture conventionnelle chimique, hein, qui sont les opérations de semis, les opérations de repiquage, les opérations de taille, éventuellement de greffe. Par contre, l'agriculteur biologique va s'intéresser, pour éviter les engrais chimiques, va s'intéresser à des engrais naturels, à des engrais d'origine de compost, d'origine éventuellement de déjection animale. Mm-hmm. Le compost, c'est un petit peu le maître mot de la richesse, de la fertilité du sol dont on parlait tout à l'heure. Ça veut dire que rien ne se perd, tout se recycle, et que même parfois des choses, on pose des questions, mais et les cendres, on a fait un barbecue, oui, les cendres, oui, des déchets, par exemple, les déjections animales, et même, ça surprend parfois, même du chien, ah bon, le chien, on peut aussi mettre le caca chien dans le compost, oui, tout
bien
est une
sûr,
question
oui,
d'équilibre,
oui.
Tout est une question de dosage, mais à partir du moment où on va mettre aussi bien des choses très boiseuses, comme des déchets, des tailles de branches d'arbres, des copeaux de bois, à condition évidemment qu'ils n'aient pas été traités, mais aussi des choses qui pourrissent très rapidement. C'est bien cet assemblage de choses ligneuses, boiseuses, un petit peu sèches, avec des choses très fermentescibles, qui va faire la qualité d'un compost. Le compost, c'est vraiment la base on en parlait tout à l'heure, d'un sol qui vit bien, d'un sol qui est riche et qui, lentement, doucement, la différence d'engrais chimiques ont des actions très violentes, très rapides, va fertiliser pour du long terme, durablement et en douceur le sol. Donc, c'est-à-dire que le compost, c'est aussi une attention quotidienne. Alors, évidemment, de l'approvisionner, mais de temps en temps, être capable d'ouvrir le compost et de voir s'il est assez sec, s'il est assez humide, et peut-être éventuellement rajouter un petit coup de jet d'eau, l'aérer, passer un petit coup de fourche pour le retourner. Ce n'est pas des opérations bien compliquées, mais qui demandent, c'est aussi un des aspects importants de l'agriculture biologique, qui demande de la surveillance, de l'observation.
Oui, donc faut être sérieux.
Tout à fait. Souvent, on dit l'agriculture biologique, c'est un peu le passé, c'est quelque chose d'archaïque. Non, au contraire, c'est quelque chose, si ce n'est pas compliqué, qui demande de l'observation, de l'attention, et de surveiller au jour le jour son fapou.
Alors Silver, ne nous quitte pas, ça fait déjà 10 minutes qu'on est en train de parler. Déjà. On va faire une petite pause, puis on reviendra juste après et on parlera notamment du contenu des formations que vous organisez avec Doceo.
Radio Show, l'interview. Radio Show, l'interview.
Vous écoutez Radio 1, il est 8h37. Je suis toujours en compagnie de Silver Lamy, formateur ingénieur en agronomie tropicale, qui est venu nous parler des formations qui sont proposées par Doceo. Je fais mon potager bio. Alors, juste avant la pause, on évoquait donc qu'est-ce qui entrait en compte quand on veut jardiner bio. Finalement, ça demande du sérieux, de l'observation, tu le disais toi-même. Est-ce qu'il faut avoir la main verte ? Un petit peu quand même.
Non, Inatea, non,
et on n'a
pas besoin d'avoir la main verte. Et je peux te dire que très souvent des personnes me disent « mais j'ai pas la main verte, je vais pas y arriver ». Non, on parlait tout à l'heure d'observation, du bon sens. Avec le temps, petit à petit, mm-hmm. évidemment, mais même n'importe quel agriculteur ne réussit pas, j'irais professionnel, quelqu'un qui a eu une bonne formation ne réussit pas la première année. On sait que chaque lieu a aussi son particularisme, hein,
oui.
son climat, ses bébêtes, hein, comme on dit en Polynésie.
Oui.
Et bon, faut effectivement du temps, de l'observation, tenter, parfois rater, souvent réussir, pour petit à petit réussir. Mais non, je ne crois pas à la main verte. Je pense que cette observation... Alors, un petit exemple tout bête, l'observation. Évidemment, si on regarde rapidement son faapu, on ne va pas voir grand-chose. Par contre, si on prend le soin de baisser un petit peu la tête et de regarder sous les feuilles, c'est là où sont les bébêtes, par exemple. Hein, les cochenilles, les pucerons sont souvent cachés sous les bébêtes. Quelque chose d'assez intéressant,
oui.
Ça va te faire sourire, mais la nuit, avec une lampe frontale, regardez votre faapu, vous verrez le fameux petit Adorius cynicus, le petit scarabée chinois qui mange, qui fait des gros dégâts, les trous que vous avez tous vus sur les haricots, sur les maïs, sur les aubergines,
oui.
il est là. Effectivement, si on ne s'en aperçoit pas et que dans la journée on ne fait pas trop attention, on se dit bah ça pousse pas, il y a des trous, je ne sais pas ce que c'est, et on laisse tomber.
Et en fait, c'est dû à la nuit, à certains insectes.
Voilà,
surtout.
Notamment les nuits de pleine lune, on découvre des tas d'insectes. Si on a la curiosité de se promener avec la lampe frontale ou avec la lampe de poche, alors on est bien d'accord, il faut dormir. Hein. Je n'ai pas
oui,
dit que
oui.
le jardinier doit travailler toutes les nuits. Mais
vérifier.
Des petites choses intéressantes et l'observation. D'ailleurs, souvent on me dit mais pourquoi ne pas mettre l'arrosage automatique? Moi, personnellement, sur mon faapu, je n'ai pas d'arrosage automatique, parce que l'arrosage quotidien en saison sèche que je fais,
oui.
c'est aussi pour moi le prétexte, la justification d'avoir une observation. En même temps que j'arrose, ça me permet d'observer l'état des plantes, s'il y a des carences, s'il y a des insectes, ce qu'il faut faire. C'est aussi ma justification pendant 10 minutes, un quart d'heure.
Bah oui, parce qu'avec l'arrosage automatique, on n'a plus ce réflexe d'aller vérifier sa plante, d'aller. Puis c'est plus, voilà, c'est plus un moment où on va jardiner pour
tout
soi.
Fait.
C'est, voilà.
Puis c'est très agréable d'arroser.
Voilà.
On est un petit peu en communion avec la nature en fin de journée.
Papa, si tu nous écoutes, mon père, il arrose ses plantes tous les jours, donc voilà. C'était le petit aparté. Alors justement, tu parlais des bébêtes. Le bio, c'est aussi éviter l'utilisation des pesticides. Comment on fait quelles sont les solutions pour éviter ces produits?
Tout à fait. Alors, tout à l'heure, on a parlé des engrais chimiques versus compost, effectivement, où le compost est une source de fertilisation naturelle, longue, sur du long terme, pour éviter les engrais chimiques. L'autre thème important, hein, je schématise, mais quand on parle de certification agriculture biologique, c'est effectivement l'élimination, le strict arrêt des pesticides chimiques.
Mm-hmm.
Alors, il y a des pesticides, alors, je ne sais pas s'il faut employer le terme, mais qui vont tuer les pestes d'origine naturelle, on peut en parler. Mais avant de parler de produits naturels, il y a quelque chose qu'on oublie souvent, c'est ce qu'on va appeler la rotation. Effectivement, une culture, je pense par exemple au chou, le potat, la roquette, le radis, le navet, qui sont de la même famille des crucifères, sont très sensibles, vous l'avez tous vu,
mm-hmm.
aux fameuses petites chenilles, hein, qui sont la partie embêtante de la teigne du chou, donc sont très souvent attaquées. Un des premiers principes, avant de se dire on va utiliser un produit de traitement même biologique, c'est de se dire je vais éviter une trop forte concentration, d'en mettre trop au même endroit. Et surtout, la fois suivante, quand j'aurai cueilli mes potas, je ne remettrai pas des potas ou des choux, des légumes de la même famille au même endroit, pour brouiller les pistes, pour que les chenilles, les teignes, les différents insectes ne s'habituent pas à avoir toute l'année
au
même endroit. Donc rotation assolement, rotation c'est une notion de temps, assolement c'est une notion de lieu. Voilà des choses dont il faut se préoccuper. Éviter de trop grandes concentrations, de trop grandes surfaces de la même culture. Ça, c'est pour le lieu, l'espace.
Oui.
Et dans le temps, éviter de mettre les mêmes légumes, surtout s'ils ont été malades, d'une culture à l'autre. Alors si on parle de produits naturels, alors on trouve maintenant de plus en plus dans le commerce, hein, que ce soit en surface spécialisée, jardinage ou même en grande distribution, de plus en plus de produits autorisés en agriculture biologique, qui portent pour nom, non pas les produits commerciaux, mais les matières actives à base de pyrèthre, donc qui est de la famille des chrysanthèmes, qui est un végétal qui a des vertus insecticides, à base de neem, mm-hmm. de neem, hein, N-E-E-M, qui est un arbre dont les graines ont des vertus très, très efficaces en matière d'insecticides, le piperonyl. Il y a aussi des genres de champignons qui s'appellent les bacillus. En regardant sur les étiquettes, il y a, c'est clairement mentionné, autorisé en agriculture biologique, on trouve dans le commerce des produits bio insecticides. Ensuite, on peut en fabriquer. Alors, ça demande un petit peu plus de technique, en tout cas d'empirisme, mais il faut savoir qu'un certain nombre d'huiles Tout le monde connaît l'huile d'été, par exemple, notamment sur la fumagine, qui sont ces traces noires qui abîment les tiarets, qu'on va trouver sur un certain nombre d'arbres à la fois maraîchers, mais aussi d'arbres ornementaux, sont des substances tout à fait autorisées en agriculture biologique, qu'on peut utiliser, qui ont souvent un rôle un petit peu physique d'étouffer les larves, d'empêcher les œufs de se reproduire et de gêner les bêtes. On trouve des choses, je pense... Comme l'ail, comme...
L'ail
Oui, l'ail a un rôle répulsif. On vend des décoctions, des mélanges, parfois il y a un peu de piment aussi.
Sur tous les insectes ou
Sur tous les insectes, effectivement.
Ah, c'est incroyable.
Alors, on peut dire que ce n'est pas très sympa pour les voisins, parce qu'on envoie les bêtes chez les voisins, donc là ça pose aussi peut-être une question, un cas de conscience collective. Le sel, par exemple, une petite cuillère à café, donc il faut que ce soit moins salé que l'eau de mer, dans un litre d'eau, est un excellent insecticide contre, on parlait tout à l'heure de la chenille du chou, on peut maîtriser une population de chenille du chou en pulvérisant les feuilles, enfin idéalement là où, le cœur du potin, le cœur du chou, là où il y a des chenilles. Mais là encore, c'est bien une question d'observation. Si on attend que la plante soit complètement affaissée pour le faire, effectivement, souvent, ces produits autorisés en agriculture biologique peuvent être un petit peu courts. Donc on revient à cette notion d'observation, de s'y prendre suffisamment tôt, pas forcément préventif, mais dès qu'on s'aperçoit que l'insecte est là, tout à fait. Alors, c'est pas toujours très facile aussi, qu'on parlait tout à l'heure d'écosystème, faut se méfier aussi, même s'il y a des produits qui sont autorisés en agriculture biologique, ils ne sont pas toujours très sélectifs. Et je pense par exemple aux abeilles, je pense aux petites coccinelles qui sont des alliées de l'agriculteur, parce qu'elles vont manger les larves de pucerons, les abeilles vont polliniser, c'est très précieux sur les tomates, les aubergines qui ont besoin des insectes comme pollinisateurs pour faire fructifier les fleurs. Effectivement, il faut faire aussi attention, bien lire les étiquettes. Certains de ces produits, je pense aux pyrètres, aux nîmes, peuvent aussi avoir une action, hélas, néfaste contre les insectes, les auxiliaires du jardin. À ce titre, d'ailleurs, il vaut toujours mieux le traiter en fin de journée qu'en début de matinée.
Alors, c'est tout ce qu'on pourra avoir durant ces formations que vous organisez. Justement, on va rappeler un numéro de téléphone pour ceux qui souhaiteraient s'inscrire.
Alors, dossier aux formations, donc, le téléphone, c'est 503-666.
Voilà, 503-666.
On a aussi un site www.doceo.pf ou une page Facebook @doceo.pf.
Tout simplement. Alors, les formations, elles auront lieu quand?
Alors, comme je disais tout à l'heure, on fait des formations pour les institutions, pour les villes, pour le CEFI. Donc elles nous contactent, on leur parle un petit peu des procédures, notamment de financement. Mais pour les formations pour les particuliers, ce sont des formations courtes, c'est 3 matinées à la semaine. Généralement, c'est 3 jeudis matin, de 8h à midi. Ça se passe à Punaouya. À la fois, donc c'est une formation très pratique. Il faut venir en tenue décontractée, puisqu'on est beaucoup plus sur le Fahapou que sur la terrasse à discuter. Il y a aussi une petite partie gastronomique, puisqu'on essaye à chaque fois, à chaque matinée, d'avoir un petit brunch sympa qui met en valeur les fruits, les légumes du jardin, qui nous donnent aussi des idées. On parle beaucoup gastronomie dans ces formations agricoles aussi, et ça fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, évidemment, pour bien manger, manger mieux.
Et
Donc on peut retrouver toutes les informations sur les dates. Alors il y a une session qui commence après-demain, mais elle est complète. Mais le 14, 21, 28 mars, il y a de nouveau une session. C'est toujours donc 3 jeudis matin, tous les 2 mois. Donc janvier, mars, mai.
Voilà, il y aura des formations qui seront organisées. C'est à Punaouya, au Lotus.
Tout à fait.
Voilà. Donc les formations sont organisées, comme tu l'as dit, 3 matinées sur tous les 2 mois, pardon. Et puis on rappelle le numéro de téléphone pour ceux qui souhaitent s'inscrire.
Formation, qui fait bien d'autres formations que l'agriculture, mais je suis là pour parler de l'agriculture. C'est le 503-666.
503-666. Eh bien, Sylvère, je te remercie beaucoup d'être venu parler dans notre émission. Puis j'espère que vous aurez du monde dans vos formations, mais apparemment, c'est déjà le cas.
Merci, Nathéa.
Je te dis au revoir et je te souhaite de passer une très bonne journée.
D'accord.
Radio Show, l'interview.